Clotilde Dumay.
C'est le candidat qui menace l'hégémonie de Recep Tayyip Erdogan à Ankara. Le principal opposant au président turc a donc été interpellé ce matin. Ekrem İmamoğlu est accusé cette fois de corruption et de terrorisme. Hier déjà, son diplôme universitaire a été annulé. Bref, le maire d'Istanbul est plus que jamais dans le viseur de Recep Tayyip Erdogan au pouvoir depuis plus de 20 ans en tant que Premier ministre, puis en tant que président. Bonjour Dorothée Schmidt.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques, responsable du programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors cette arrestation d'Ekrem İmamoğlu, elle intervient alors qu'il devait être désigné dimanche par le Parti républicain du peuple, candidat donc à la présidentielle de 2028. Est-ce que c'est un hasard de circonstance ?
Non, je pense que en réalité on voyait le cercle de la répression se refermer progressivement autour d'İmamoğlu. Vous savez qu'hier, on a annoncé que son diplôme universitaire n'était pas valable. Et donc ça, c'était une dernière manœuvre pour, de façon légale, l'empêcher d'être candidat, puisque en Turquie, on doit avoir être titulaire d'un diplôme universitaire pour se présenter. Et la surprise, c'est peut-être qu'il a été arrêté avec une centaine de personnes, beaucoup de monde, deux maires de district d'Istanbul aussi. Donc une très grosse opération quand même anti-opposition libérale, je dirais, mais qui se situe après des mois de pression qui monte en réalité sur l'opposition. Vous souvenez peut-être que le patron de TÜSİAD, qui est le groupement des patrons turcs les plus occidentalisés, je dirais, avait aussi été arrêté avec son adjoint. On a donc une très grosse pression sur tous les milieux de l'opposition libérale en Turquie aujourd'hui. Et le paradoxe, c'est ça se passe en même temps que le fameux processus de paix et l'ouverture envers les Kurdes avec le PKK.
Alors ça, effectivement, on va y revenir dans un instant, mais c'est vrai que voilà, on observait effectivement depuis plusieurs semaines maintenant cette pression qui s'accentuait sur l'opposition. On peut aussi rappeler que le Parti républicain du peuple a remporté un succès l'an dernier aux élections municipales, avec notamment İmamoğlu justement, qui en est l'illustration avec sa franche réélection à Istanbul. Ça veut dire quand même que Erdogan sentait déjà le vent tourner et que finalement il s'était préparé potentiellement à durcir le ton.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a une espèce de chantage d'Erdogan au soutien de sa base. Effectivement, depuis au moment des précédentes présidentielles et législatives, en 2023, il avait dit que c'était sa dernière campagne électorale. Donc il se retirerait ensuite de la politique, ce qui avait donné un vent un peu frais, hein, je dirais, sur le spectre politique turc. Et puis finalement, en 2024, les victoires importantes de l'opposition, hein, notamment dans les trois grandes villes, Ankara, Istanbul et Izmir, l'ont mis en fureur, parce qu'en plus, İmamoğlu a été réélu très largement, alors que vous vous souvenez peut-être qu'en 2019, quand il a été élu, le pouvoir a essayé d'invalider l'élection, et qu'il a finalement, on a rejoué cette élection, et il avait obtenu plus de voix que lors du premier scrutin. Donc vraiment, İmamoğlu était en train de se dégager comme étant une personnalité que beaucoup d'ailleurs décrivent comme, du point de vue du tempérament, un peu proche d'Erdogan, c'est-à-dire un personnage un peu populiste, qui communique énormément, très présent sur les réseaux sociaux, un peu affairiste, donc très talentueux, et puis surtout 20 ans de moins qu'Erdogan, donc ça c'est quand même quelque chose qui est important, puisque l'actuel président est un peu usé. Mais İmamoğlu, il a aussi des challengers dans son propre parti, donc le problème c'était comment est-ce que le Parti républicain du peuple, le CHP, qui est historiquement le grand parti héritier du kémalisme et qui se re-imposait comme vraiment le grand parti d'opposition après ses victoires municipales l'année dernière, comment est-ce que ce parti arriverait à se mettre d'accord sur une candidature unique pour la présidentielle, sur un leadership qui soit cohérent, puisque İmamoğlu n'est pas le président du parti, et qu'on a aussi le maire d'Ankara, qui est aussi un concurrent possible. On avait cette primaire qui devait avoir lieu dimanche. Alors le CHP a annoncé qu'elle aurait lieu. On ne sait pas très bien comment ils vont s'en sortir. Mais le maire d'Ankara, Mansour Yavaş, avait dit qu'il ne participait pas à la primaire. Donc on avait déjà toutes ces divisions qui étaient en arrière-plan. Alors finalement, pour Erdogan, c'est un peu comme un jeu de quilles. C'est assez simple, hein. Il faut abattre İmamoğlu et après, toutes les complications qui déjà obèrent le fonctionnement de ce parti vont revenir et voilà, et l'opposition est pratiquement désactivée en fait.
Alors vous l'évoquiez effectivement, Dorothée Schmidt, tout à l'heure. Dans le même temps, on observe ces dernières semaines une sorte de main tendue tout de même d'Erdogan vis-à-vis du Parti des travailleurs du Kurdistan, hein, après l'appel du chef du PKK à dissoudre le mouvement, à mettre fin à des années de guérilla en Turquie. La stratégie d'Erdogan, vous l'évoquiez, c'est quoi? C'est finalement de diviser l'opposition. Quelle est cette stratégie concrètement?
Oui, c'est à la fois diviser l'opposition et puis récupérer le vote kurde. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre historiquement dans les rapports très compliqués d'Erdogan avec la population kurde de Turquie, qui représente quand même 15 à 20% de la population du pays, et la façon dont il manipule le spectre politique sur cette question kurde, c'est que bon, les Kurdes de Turquie sont divisés entre des Kurdes plutôt légitimistes qui souhaitent obtenir des droits normaux, être reconnus en tant que minorité en Turquie, et ça c'est très compliqué puisqu'on a l'héritage d'une Turquie très nationaliste, très à la fois très jacobine, très centralisatrice, mais aussi qui efface les identités. Et donc ça, c'est une complication culturelle historique très forte. Et puis on a le PKK, qui est ce mouvement qui a pris les armes, et depuis les années 80, on a eu des dizaines de milliers de morts en Turquie, parce qu'on a une insurrection séparatiste en Turquie. Aujourd'hui, Erdogan a fait ce calcul que si sa base électorale à lui, de centre, y compris qui comprenait des libéraux au début du règne de Tayyip Erdogan sur la Turquie, on avait aussi, c'est un parti attrape-tout, son parti. Il avait réussi à récupérer même des libéraux de centre, de centre-droite, de centre-gauche. Maintenant, toute cette base-là, elle est en train de faire défection, notamment parce qu'il y a beaucoup de problèmes économiques, parce qu'il y a une usure du pouvoir, parce qu'il y a une autocratie, une obsession personnelle, un ego surdimensionné d'Erdogan, parce qu'il passe son temps à réformer les institutions pour présidentialiser davantage le régime. Et d'ailleurs, là, on le soupçonne de vouloir à nouveau faire une réforme constitutionnelle pour pouvoir se représenter pseudo-légalement à la prochaine présidentielle. En principe, il ne peut pas se représenter. Donc, on avait une érosion de son électorat. Et le calcul d'Erdogan, c'est, dans ces cas-là, c'est les Kurdes peuvent finalement être l'appoint nécessaire. Et il
Un
faut surtout
balancier.
pas que les Kurdes soient l'appoint, en tout cas, pour l'opposition. Donc, on a déjà eu deux ouvertures kurdes au tout début de l'AKP au pouvoir. Et puis, précédent très important pour la comparaison avec ce qui se passe maintenant, en 2013, avant les grands mouvements de manifestations de Gezi, ces grands mouvements d'opposition qui avaient touché toute la Turquie, de grandes manifestations anti-Erdogan, on avait aussi un processus de paix qui avait été déclaré avec le PKK à la même époque. Donc, c'est une
Et
façon
donc, on va voir
de
effectivement.
neutraliser les Kurdes, en fait.
Et donc, on va voir effectivement comment les choses vont évoluer. Merci beaucoup, Dorothée Schmidt, responsable du programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI. Merci à vous.